9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Pourquoi y a-t-il la guerre en Ukraine, des conflits entre les différentes religions, du complotisme, y compris chez les anticomplotistes, des injustices, des inégalités? Pourquoi ne fait-on pas ce que l'on devrait contre le réchauffement climatique qui menace pourtant notre avenir et celui de nos enfants? Autant de questions que nous nous posons chaque jour sans trouver de réponse satisfaisante. Un livre vient de paraître qui peut nous y aider. Il s'intitule « La fabrique de l'humanité ». Son auteur est mon invité ce matin. On va passer toute cette émission avec lui.
Europe 1.
Pascal Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes un célèbre anthropologue. Vous avez été fellow du King's College à Cambridge, chercheur au CNRS. Vous occupez la prestigieuse chaire d'anthropologie cognitive à l'Université Washington de Saint-Louis, aux États-Unis. C'est d'ailleurs aux États-Unis que La fabrique de l'humanité est parue en anglais avant d'être traduit en France chez Robert Laffont. Vous pensez que la société humaine peut être expliquée scientifiquement?
Oui, tout à fait. Et évidemment, ça met 420 pages, mais ouais, seulement pour donner l'introduction. Et donc, ça fait un long parcours qu'il faut faire parmi les sciences.
Le titre original de votre livre, c'est « Minds make societies », au sens « les cerveaux
voilà,
fabriquent la société ouais. ».
Oui, parce que le livre est une tentative pour expliquer, résumer, présenter à peu près 30 ou 40 ans de recherche, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles de toute une communauté scientifique, qui s'attache à montrer que l'esprit humain, c'est un produit de l'évolution, comme le reste de notre corps, et qu'il a certains traits à cause de cette évolution, et que ces traits font que la vie en société a certaines propriétés qui sont tout à fait typiques de notre espèce. Et si on les voit du point de vue de l'évolution, elles sont souvent étonnantes. Dans l'introduction du livre, je mentionne cette possibilité. Qu'est-ce que ce serait l'anthropologie si c'était une autre espèce qui le faisait? Par exemple, les gorilles se diraient, c'est complètement bizarre, dans les groupes humains, ce ne sont pas les plus gros et les plus musclés qui gouvernent. Pas toujours. Les bonobos, les chimpanzés, se diraient, c'est bizarre, ils parlent tout le temps de sexe, ils en font tout un plat, mais ils ne le font jamais, presque jamais.
Par rapport aux bonobos, c'est vrai bonobos, que les êtres humains sont un peu en déficit.
Mais alors voilà, c'est toutes ces recherches, ça fait 20, 30, 40 ans de recherches qui sont à la fois importantes pour toutes les questions qui nous intéressent, genre pourquoi il y a des coalitions dans la société, pourquoi on se fabrique toujours des ennemis, etc. Pourquoi les familles sont organisées comme elles sont, pourquoi on a un désir de justice qui semble jamais satisfait. Ça permet d'y répondre et c'est bizarrement, toutes ces recherches ne sont pas vraiment, ne font pas partie du débat public.
Non, les gens, la plupart du temps, ne savent pas où on en est dans ce domaine.
Mais alors voilà, c'est la fonction du livre.
Quand vous dites les cerveaux fabriquent les sociétés, les sociétés, la société humaine peut donc s'expliquer scientifiquement, on se dit, mais comment ça se fait? On est tous différents. Si vous prenez les gens qui vivent dans un même immeuble, il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même façon. Et si vous prenez un Parisien et un habitant de la campagne chinoise, le fossé semble encore plus grand. Et pourtant, ça fonctionne.
Il y a beaucoup de choses. Bah, c'est certain que nous avons à la fois des différences individuelles, des différences culturelles. On n'est pas tous du même endroit, on n'a pas les mêmes habitudes. Mais en même temps, le fait même qu'on puisse reconnaître ces différences montre qu'il y a un arrière-fond de similitudes, de ressemblances plutôt, qui fait qu'on peut se comprendre. Donc, on y reviendra, on prendra plusieurs exemples, mais quand on parle de famille, quand on parle de religion, quand on parle de conception de la justice, on s'aperçoit que sous les diversités culturelles, les détails qui sont très différents d'un endroit à un autre, en fait, on peut retrouver des thèmes communs.
L'opposition classique entre nature et culture, est-ce qu'elle est encore opérationnelle aujourd'hui?
Non, je crois que le grand problème, c'est que c'est très difficile de s'en débarrasser et que c'est aussi la condition pour penser à tous ces problèmes, c'est de s'en débarrasser. Alors, mais brièvement, simplement, acquérir des informations de la part des autres, c'est-à-dire ce qui fait la culture, c'est la nature humaine. C'est ça la nature humaine, c'est une partie de la nature humaine, c'est d'acquérir toutes ces informations des autres. D'acquérir les façons de faire, les normes, les préférences, etc. Et donc, la manière dont on les acquiert, qui est une fonction de la manière dont marche notre cerveau, c'est ça qui fait qu'on acquiert certaines choses et pas d'autres. Certaines normes et pas d'autres. Alors, évidemment, Pour comprendre ça, il faut toujours se dire, étant donné qu'il y a une certaine norme, est-ce que ça aurait pu être très différent et à quel point ça aurait pu être très différent ? Par exemple, on parlera des familles, les familles sont très différentes dans diverses cultures du monde, mais il y a quelque chose qui, encore une fois, frapperait un anthropologue chimpanzé, c'est que dans toutes les familles humaines, les pères sont soucieux de leurs enfants. C'est que le sort de leurs enfants est quelque chose qui compte pour eux. Pour un père chimpanzé, c'est absolument pas le cas. Alors, il y a toutes sortes de façons d'organiser la famille, mais il y a des contraintes comme cela qui viennent de notre évolution, de notre nature humaine, qui font que ces comportements, par exemple la manière dont les pères s'occupent des enfants, vont être là. Et on ne peut pas, on peut pas faire de famille sans ça. Aussi, par exemple, quelque chose qui est très amusant, hein, c'est que tous les êtres humains ont des beaux-parents. Et ça, c'est dans toute société humaine, avoir, disons, des relations sexuelles avec un individu vous donne des relations sociales avec les parents de cet individu ou avec ses frères et sœurs. Donc ça,
c'est typiquement humain, ça.
C'est complètement humain, et pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, mais ça structure beaucoup les sociétés, surtout les sociétés traditionnelles.
Pascal Boyer, si l'on peut donner des explications scientifiques à des phénomènes sociaux particuliers, comment expliquez-vous la guerre en Ukraine ? Pas par le nationalisme, j'imagine, c'est trop récent, ou par un retour du tribalisme, ça aussi c'est anecdotique, ni par la personnalité de Vladimir Poutine, encore moins par l'influence de la CIA. Alors, vous opérez comment ?
Alors, c'est le genre d'anthropologie que j'essaie de faire, que font beaucoup d'autres anthropologues, n'explique pas vraiment les détails de situations historiques particulières, mais s'attache aux mécanismes généraux qu'ils mettent en jeu et qui seraient aussi sans doute pertinents pour expliquer l'invasion de la Pologne en 1939 ou d'autres situations historiques.
On fait une pause et on y revient immédiatement.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec l'anthropologue Pascal Boyer qui publie La Fabrique de l'Humanité. On en était aux guerres. Pourquoi y a-t-il des guerres ? Si je résume votre livre, on forme des groupes. Les groupes forment des coalitions. Les coalitions alimentent les stéréotypes qui entraînent des comportements, qui nous font entrer en conflit avec les autres, qui peuvent déboucher sur des violences. Ce serait pour ça qu'il y aurait actuellement la guerre en Ukraine.
Ben c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits humains. Alors une manière que l'on a d'habitude de penser ces conflits humains, c'est de penser qu'ils sortent des stéréotypes, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous pensez que les Brésiliens sont joyeux et que les Finlandais sont déprimés. Et alors, voilà, alors quelquefois, vous avez des stéréotypes beaucoup plus graves que ça. Et ayant ces stéréotypes, ça vous permet de former des groupes qui, peu à peu, ayant des intérêts différents, vont s'opposer. Ce qui semble ressortir de l'anthropologie biologique, enfin de évolutionnaire, c'est un peu, en quelque sorte, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut comme être humain, ce qui fait partie de notre nature, c'est de faire des groupes, de constituer des alliances. Et ces alliances ont pour but de nous donner ce dont nous avons besoin, qui est le soutien des autres, c'est de recruter le soutien des autres. Alors, une conséquence de cette motivation vraiment de notre évolution, de recruter le soutien des autres, c'est qu'évidemment, c'est compétitif comme soutien. C'est-à-dire que si moi j'ai votre soutien, ben vous ne soutenez plus quelqu'un d'autre. Et que donc, naturellement, les alliances deviennent des alliances en compétition. Ça peut à la fois se trouver dans des domaines à très petite échelle. Il n'y a pas d'entreprise de 20 personnes où il n'y ait pas des petites cliques de 3 ou 4 qui sont un peu ennemis. Et puis, ça peut prendre une proportion beaucoup plus grande quand ça devient des groupes ethniques, des classes sociales ou des nations.
Ou des alliances militaires, pour l'Ukraine.
Alors, avec évidemment l'amplification que donne la technologie à ce genre de guerre. Ce qu'on appelle la guerre primitive en anthropologie, qui a été ce qu'on a fait pendant 200 ou 300 000 ans, et qui se retrouve encore dans les guerres de gangs, dans des mauvais endroits, c'est une guerre assez artisanale dans laquelle on défend son territoire et on fait de temps en temps des raids pour prendre des biens à d'autres. Okay. La technologie renverse tout ça, évidemment, parce qu'elle permet de tuer en masse les gens. Alors là, se créent des dynamiques qui n'ont rien à voir avec notre évolution, mais qui sont portées quand même par notre évolution, dans le fait que, par exemple, à la surprise de beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de gens ukrainiens se sont dit, bien entendu, que je pourrais mourir pour défendre mon pays. C'est tout à fait normal. Nous qui vivons dans des conditions confortables et paisibles, nous ne nous apercevons pas que ce réflexe est toujours présent en nous, qu'il peut revenir, et encore une fois, pour le bien ou pour le mal.
Comment expliquer l'intensité de la violence qui est utilisée? Parce qu'on a souvent tout à y perdre. On devrait avoir la sagesse de bannir la guerre. Oui. On se dit par exemple que les Chinois sont en train de devenir la première puissance économique mondiale grâce au commerce. Pourquoi prendraient-ils le risque de déclencher une guerre contre les Américains en envahissant Taïwan? On se dit, ils ont tout à y perdre.
Les nations sont pas des agents, donc ne se comportent pas toujours de la manière qui maximalise le profit. Donc il ne faut pas prendre les nations pour des personnes. Ce qui se passe dans des nations, c'est quelquefois que des classes politiques ou des cliques politiques voient que leur intérêt n'est pas forcément de défendre l'intérêt des populations, mais de défendre, par exemple, l'idée que ils sont des protecteurs de la population. Alors, par exemple, beaucoup de régimes dictatoriaux essayent de cultiver l'idée que nous sommes encerclés. Ils veulent tous nous prendre notre pays. Au grand temps du pire stalinisme de l'Albanie, le régime albanais essayait, contre toute vraisemblance, de faire croire aux Albanais que l'Albanie était un tel paradis que l'ensemble de l'Europe aurait bien aimé la saisir et la conquérir. Ce qui, quelques personnes qui visitaient l'Albanie trouveraient ça extrêmement rigolo, enfin, ou sinistrement rigolo.
Mais Pascal Boyer, alors, dans ce cas, c'est une autre question. Pourquoi les êtres humains se racontent-ils des histoires? Et pourquoi avons-nous un tel besoin d'y croire? Pourquoi propage-t-on des rumeurs? Et peut-on en conclure pour autant que nous sommes enclins à dire et à croire n'importe quoi?
Ça, c'est une question assez difficile parce que nous avons un préjugé. S'il y a un préjugé humain qui est très général, c'est le préjugé que les autres sont victimes de préjugés et que l'esprit des autres est une maison aux fenêtres grandes ouvertes dans lesquelles le vent va faire entrer n'importe quel papier qui passe.
Les autres sont complotistes.
Voilà, les autres sont complotistes. Moi, je vérifie les faits. Les autres sont, les autres croient facilement, mais moi, je me documente. Alors, ce qu'on voit très souvent dans ces situations, c'est qu'en fait, d'abord, il faut voir que tous les psychologues qui ont étudié ça disent à peu près l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est extrêmement difficile de faire croire à des gens des choses quand ils n'ont pas une motivation de les croire déjà. On a des exemples historiques, par exemple, qui sont extrêmes. La propagande hitlérienne, par exemple, il semble, pour autant qu'on puisse l'étudier, a eu très peu d'effet sur les Allemands. C'est-à-dire que les gens qui voulaient écouter cette propagande, c'était des gens qui déjà étaient prêts à le penser, étaient prêts à le croire. De même, les histoires bizarres, les histoires de conspiration, les légendes urbaines ou des choses comme ça, sont souvent colportées par des gens, mais n'ont pas autant d'effet de croyance qu'on pourrait penser. Ça, c'est un autre aspect de cette psychologie qui a été très étudiée, hein, qui est que beaucoup de gens colportent des choses auxquelles ils ne croient pas totalement.
On fait une pause, Pascal Boyer, on se retrouve juste après, on continue, j'ai beaucoup de questions à vous poser.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pascal Boyer est avec nous ce matin sur Europe 1. Il occupe la prestigieuse chaire d'anthropologie cognitive à l'Université Washington de Saint-Louis aux États-Unis. Il est l'auteur de La fabrique de l'humanité qui vient de paraître en français chez Robert Laffont. La question que l'on peut se poser à ce terme de la conversation, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de détecter des menaces? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire peur et de faire peur aux autres aussi? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui nous a permis de survivre dans les cavernes ou c'est pour recruter, comme vous dites, des coalitions?
Alors c'est les deux. D'abord, effectivement, ça nous a permis de survivre dans des conditions d'évolution où il y a des prédateurs, il y a des ennemis. Et il y a la troisième grande menace pour les êtres humains, c'est la contagion et la contamination. Donc, avoir des capacités psychologiques qui nous permettent d'identifier ces dangers et de les parer, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie de notre nature humaine. Par exemple, la détection, pour dire plus simplement, l'appréhension, disons, de la contagion, c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de toucher des gens qui sont malades, de s'en approcher ou de faire toutes sortes d'autres choses avec eux. Cette espèce d'évitement fait partie de nos dispositions d'évolution.
Bon. Alors, cerveau nous le commande.
Voilà, c'est ça. En quelque sorte, c'est là et après, on essaye de se l'expliquer. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de théories qui sont complètement différentes selon les cultures, qu'il y a des miasmes, que l'air des gens malades est trop chaud ou qu'il est trop froid ou des choses comme ça. Mais en tout cas, la réaction, disons, viscérale, c'est de s'en éloigner. Alors, on a aussi les menaces que représentent les autres. Les enfants, dès un âge très, très petit, de vers 9 mois, ont une anxiété des étrangers ou la peur des étrangers qui est tout à fait caractéristique, qui se développe à cet âge-là, et qui dure et qui est plus centrée sur les hommes que sur les femmes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les enfants à cet âge ont plus peur des hommes que des femmes. Et de façon assez amusante, les enfants qui sont élevés par des couples hommes gays ont exactement la même réaction. C'est-à-dire que ce n'est pas la question des pères ou des mères ou tout ça, c'est sans doute une adaptation au fait que pendant des centaines de milliers d'années, un homme qu'on ne connaît pas était sans doute plus dangereux que n'importe quel autre membre du groupe.
Est-ce que vous expliqueriez de la même façon le fait qu'encore aujourd'hui, en 2022, on a peur de sortir la nuit? Oui, on ne laisse pas nos enfants sortir la nuit, en dépit du fait qu'aujourd'hui, il y a la lumière, il y a l'électricité, qu'on ne court pas plus de risques la nuit que le jour. Voilà. Et pourtant, on continue de...
Alors ça va dans votre question qui est pourquoi on s'en raconte autant? Parce que par exemple, les enfants américains, moi je sais ça parce que je vis aux États-Unis, depuis 15-20 ans ont été dans un enfermement complet. Ils ne peuvent pas sortir. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation avec le parent hélicoptère, qui est toujours aussi en train de traîner autour de l'enfant, de surveiller et tout ça. Les enfants ne sont jamais sans surveillance. Les gens de ma génération, ou celles d'un peu après, ont une expérience d'être complètement libres de faire ce qu'ils veulent pendant la plupart des journées. Alors, en dehors de l'école, bien sûr. Et ça, c'est arrivé au moment où la sécurité des enfants était la plus grande depuis des siècles. Donc, quand on commence à se dire qu'on est en danger, ces messages se renforcent. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a des signes qui nous disent que vous êtes en danger. Hein, quand on entend les prédateurs, par exemple, on sait qu'on est en danger. Par contre, on n'a pas de signes qui nous disent qu'on est en sécurité. Le silence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prédateurs, ça veut dire que les prédateurs sont silencieux, peut-être. Donc, notre esprit doit toujours aller vers le pire, vers le plus grand danger. Quelque chose que cela nous permet aussi, parfois, c'est de créer de l'alliance avec des groupes en disant « Regardez, il y a tel danger, les gens d'en face ou les gens d'un autre village sont extrêmement dangereux. » Et là, on voit, est-ce que la personne à qui on dit ça suit ce discours ou trouve au contraire que c'est complètement, que c'est pas raisonnable. Et dans ce cas-là, on voit en quelque sorte qu'on a un allié ou on a quelqu'un qui n'est pas très allié.
Ou qui carrément même devient un adversaire.
Ou qui peut devenir un adversaire.
Pourquoi existe-t-il des religions? Et pourquoi y a-t-il une telle concurrence entre elles? Qu'on ait eu besoin des religions à une époque, on le comprend aisément. Pourquoi en a-t-on encore besoin aujourd'hui?
Alors, c'est à cause de plusieurs dispositions psychologiques et au risque de faire honteusement de la publicité pour un autre livre que j'avais publié il y a longtemps. J'avais un livre qui s'appelait « L'homme créa les dieux » qui était justement sur ce thème et qui, en plus de nos jours, est entièrement lisible puisqu'elle a été tournée en bande dessinée et scénarisée par Joseph Béhé et dessinée avec une très grande virtuosité. Une fois qu'on a lu ça, on sait tout. Mais comme on n'a pas le temps de tout raconter aujourd'hui, disons que Sur cette disposition d'imaginer des êtres qui soient différents de nous, qui ont des pouvoirs différents, se greffe quelque chose d'autre, dans le cas des religions que vous mentionnez, qui est cette notion d'alliance, de coalition, de nous contre les autres, parce que ces signes-là sont très appropriés pour cela. C'est-à-dire, c'est très difficile de se faire des amis ou des ennemis sur des idées banales. C'est-à-dire, si je vous dis, oui, les objets, quand on les tombe, ils tombent vers le bas, ou bien voilà, les choses plus grosses sont d'habitude plus lourdes que les choses plus petites, vous allez me dire, bon, oui. Mais si je vous dis, ce micro dans lequel nous parlons, il se rappelle de ce qu'on a dit, il se rappelle de qui est venu nous voir. Là, vous avez un choix qui est soit de dire, mais ça ne va pas, c'est idiot.
Le micro ne peut pas se
souvenir. Voilà. Soit vous avez le choix de dire, eh bien, j'ai l'impression que c'est mieux d'être avec Pascal que d'être avec les autres. Et du coup, être avec Pascal, peut-être que ça réclame d'essayer de penser qu'en quelque sorte, oui, les micros peuvent se rappeler d'eux, etc. Mais ça nous fait un lien déjà. Et si c'est à l'échelle d'un groupe, ça va nous faire un lien encore plus profond et peut-être plus durable, et certainement avec des conséquences sociales très importantes.
Puisqu'on en est au lien, pourquoi est-ce qu'on se marie ? Pourquoi est-ce qu'on fonde une famille ? Et pourquoi les hommes en ont-ils été si souvent les chefs ? Et pourquoi, encore aujourd'hui, laissent-ils la plupart des tâches domestiques aux femmes ? Ça peut s'expliquer, ça aussi, scientifiquement, par le cerveau ?
Par le cerveau et pas beaucoup d'habitude. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce qu'on voit quand on étudie l'évolution humaine, mais aussi surtout les différentes entre cultures, c'est que la famille, ça n'est pas vraiment le bon terme et ça n'est pas vraiment une chose universelle. Alors, quelquefois, on pense, oui, nous avons une petite famille qu'on appelle nucléaire, puis les autres, ils sont des familles élargies. Mais c'est plus compliqué que ça. Dans la plupart des sociétés africaines, par exemple, qui sont lignagères, les hommes et leurs épouses ne sont pas de la même famille. Les enfants sont de la famille d'un des parents, mais pas de l'autre. Dans certaines, par exemple, familles matrilocales, il arrive que des maris ne résident pas avec leur femme et les enfants. La femme, les enfants et les frères et sœurs de la femme sont une famille. Le mari et sa sœur et toutes sortes d'autres gens sont une autre famille. Et donc, les enfants sont en quelque sorte de deux familles. En gros, ils sont de deux lignages. Et c'est ça qui compte. Alors, ceci n'empêche pas qu'il y a quand même un universel qu'on trouve dans toutes les cultures, hein, qui n'est pas la famille, mais qui est le couple. Et ça peut paraître un peu étonnant, mais on trouve le couple parce que partout, on trouve cette alliance d'un homme et d'une femme. Alors, quelquefois, il y a plusieurs femmes. Très rarement, il y a plusieurs hommes. Mais enfin, cette alliance d'individus qui combine le sexe, la coopération économique, la solidarité économique, c'est-à-dire qu'on se donne des ressources et on les partage, et la responsabilité des enfants.
On fait une pause ?
On fait une pause.
Et vous nous dites la suite juste après, c'est bon, ça fait du suspense.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Pascal Boyer, l'auteur de La Fabrique de l'Humanité, comment notre cerveau explique l'économie, la justice, la religion et la famille. On en était au couple. Le couple, lui, c'est un universel.
Oui, et il prend des formes assez différentes, mais c'est un universel et c'est sans doute quelque chose de très très vieux dans l'évolution humaine. En gros, étrange combinaison de sexe, économie et soins des enfants vient de très loin, parce qu'il vient du fait d'une série de phénomènes qui ont formé des cercles virtueux, en quelque sorte, dans l'évolution humaine, c'est-à-dire des choses qui donnent lieu à d'autres choses qui renforcent la première chose. Alors, par exemple, ça paraît très abstrait, mais les êtres humains sont devenus, depuis Erectus, un million à peu près, jusqu'à l'homme moderne, de plus en plus intelligents. Ce qui veut dire qu'ils ont des cerveaux de plus en plus gros, ce qui réclame d'avoir une tête de plus en plus grosse. Ce qui fait qu'on ne peut pas les femmes ne peuvent pas accoucher d'enfants qui ont des têtes très grosses.
Donc, c'est pour ça que les enfants naissent prématurés, pour ainsi dire, alors, au bout de 9 mois, voilà. Alors qu'ils sont incapables de survivre.
Voilà. Et ça fait que les enfants sont nés trop tôt, en quelque sorte, par rapport à d'autres primates qui sont très, très vulnérables et qu'il faut beaucoup s'en occuper. Et aussi, ça fait que l'immobilisation des femmes par la gestation et le soin des enfants est beaucoup plus grande que chez des espèces comparables. Mais une fois qu'on a des cerveaux plus volumineux, on peut faire plus de chasse et plus d'extraction de ressources qui sont plus efficaces. Mais alors, à ce moment-là, ça crée une situation que des économistes appelleraient un avantage comparatif, c'est-à-dire que les hommes sont légèrement moins mauvais à la chasse, en quelque sorte, que les femmes, et les femmes sont légèrement moins ou aussi mauvaises que les hommes à la collecte, ou aussi bon, on peut voir ça dans l'autre sens, ce qui fait qu'il y a un avantage à une certaine division du travail, dans lesquelles une femme donne une certaine assurance d'exclusivité sexuelle en échange de la garantie d'un homme de fournir deux choses. Une, c'est des ressources, c'est-à-dire de quoi élever les enfants et les amener jusqu'à un âge adulte, mais aussi de protéger contre les autres hommes. Donc ça, il y a une espèce de contrat qui s'établit à ce moment-là. Et ce contrat, on le trouve dans toutes les sociétés humaines. Alors après, on le trouve avec des modalités. Quelquefois, les hommes ajoutent une petite collection de femmes
Vous voulez parler des harems.
Voilà, c'est ça. Mais en gros, et il semble bien que chaque fois que les êtres humains ont pu, ce qui n'est pas souvent parce qu'il faut avoir des ressources assez abondantes, il y a eu une certaine tendance à une polygynie, c'est-à-dire à avoir plusieurs épouses pour les hommes. Alors ce contrat, quand même, là, lui, il est stable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout, et qui a façonné la manière dont nous voyons la distribution des tâches, mais aussi la manière de concevoir les relations de genre et les relations familiales. Par exemple, il est clair pour la plupart des femmes qu'un homme qui ne veut pas s'engager, par exemple, pour l'avenir, est moins intéressant qu'un homme qui le veut. Un homme qui ne veut pas vous défendre contre des ennemis est complètement pas intéressant. Si vous voulez dégoûter une dame, la meilleure façon, c'est quand d'autres hommes veulent l'importuner, de lui dire « Ah ben, tu te débrouilles ».
Mais tout ça, j'imagine, les femmes qui nous écoutent là, elles disent « Mais tout ça, c'est très très vieux, ça n'est plus comme ça aujourd'hui ».
Alors si, c'est comme ça, et c'est-à-dire que c'est comme ça d'une certaine manière. Ce qu'il y a, c'est que quand on étudie l'évolution, c'est pas que ça vous dit exactement comment se comporte tout le monde, ça vous dit en gros ce qui est probable, étant donné qu'on interagit avec des environnements qui sont assez ressemblants à ceux qu'on avait avant, c'est tout. Et comme notre environnement, en l'occurrence, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui doivent se reproduire pour avoir des enfants et qui ont cette motivation de le faire, on trouve que certains comportements sont assez probables. Un homme qui refuserait, comme je disais, de défendre une femme avec laquelle il est serait banni de son...
Alors qu'on pourrait l'admettre d'une femme.
Mais bien entendu, oui. Imaginez si vous êtes un homme et que vous êtes dans un couple avec une femme qui pourtant est assez baraquée et tout ça, mais elle ne vous défend pas contre d'autres hommes, ça ne semble pas enlever à son potentiel de séduction. Mais dans l'autre sens, complètement. Alors, ces asymétries, quand même, elles existent. Mais une fois de plus, quand on dit que quelque chose ressort de notre nature humaine, ça ne veut pas dire que c'est inexorable, puisqu'on peut bien le changer. On a évolué, nous, pour être des chasseurs et des collecteurs, mais on a de l'industrie, on a de l'agriculture. Et ça ne veut surtout pas dire que c'est bien, évidemment. On a sûrement, dans nos motivations de notre nature humaine, on a sûrement la motivation, par exemple, d'assassiner les gens qui vous ont vraiment nui. Ça, c'est sûr. Mais bon, on a quand même des tribunaux.
Oui, et puis on a de la morale.
Voilà, on a aussi de la morale, bien sûr.
On fait une dernière pause, Pascal Boyer, et on va essayer de résoudre tout ce que vous nous avez appris au cours de cette émission.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Mon invité ce matin est anthropologue, c'est l'auteur de La Fabrique de l'Humanité qui vient de paraître chez Robert Laffont en français, il s'appelle Pascal Boyer. Les sociétés humaines nous semblent toujours injustes, les inégalités règnent, il y a des très riches et des très pauvres, il y a des injustices, ça peut être très violent, même symboliquement. Est-ce qu'une société juste est possible? Et si oui, pourquoi n'existe-t-elle pas? La très grande majorité de l'humanité y gagnerait. Alors, qu'est-ce qui l'empêche?
Alors, ce qui l'empêche peut-être, les anthropologues ne vous diront pas comment la faire, cette société juste, mais ils vous diront ce que les gens veulent quand ils veulent que cette société soit juste. Et nos notions de justice, pour ce qui est des relations dans la société en général, viennent de deux sources qui, encore une fois, remontent à notre passé de vie dans des petits groupes humains. Pour nous, pour le cerveau humain, la politique, c'est l'affaire de manager un groupe de 30 ou 50 personnes qui peut-être fait partie d'une communauté de 500 personnes. Quand nous avons des nations, des économies, des systèmes extrêmement complexes comme ça, ce que notre esprit fait, c'est simplement d'appliquer ces recettes qui marchent pour un petit groupe à une très grande collectivité. Alors, très souvent, ça donne des résultats étranges. Mais en tout cas, il y a deux tendances qui sont vraiment un petit peu opposées, en quelque sorte. Il y a une tendance et une motivation très forte du partage. Alors, toutes les sociétés qui sont des petites sociétés traditionnelles ont une éthique du partage très forte. Les gens disent qu'il faut partager, que garder pour soi, c'est très mauvais, etc. Nous avons encore des traces de ça. Hein. Nous avons cette éthique. Et alors, pourquoi on a cette éthique? C'est pas, en quelque sorte, par bonté d'âme. C'est plus que, pour les esprits humains, le partage, c'est une forme d'assurance. Et le partage, ça se trouve dans les sociétés humaines, surtout pour ce qui est très aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, on partage beaucoup les fruits de la chasse, mais pas beaucoup les fruits de la collecte. Or, les fruits de la chasse, c'est très aléatoire. C'est-à-dire, je vais chasser et je reviens bredouille très souvent. Et comme je reviens très bredouille très souvent, c'est quand même avantageux que, quand j'ai de la chance, j'ai partagé avec les autres, puisque les autres, maintenant, vont bien vouloir partager avec moi.
C'est la même chose pour la sécurité sociale, j'imagine.
Et voilà, alors, c'est...
La santé,
et j'en viens là, alors que j'ai l'air de revenir à il y a 200 000 ans. En fait, on va revenir tout de suite. Mais il y a une autre motivation. Et cette motivation, c'est celle d'éviter l'exploitation par les autres. C'est-à-dire le fait que les autres pourraient prendre des bénéfices et ne pas payer les coûts une action collective, c'est-à-dire c'est celui qui vient une fois que toute la moisson est faite et qui voudrait en avoir une part. Alors, nous avons une très forte motivation qui se voit psychologiquement et qui se repère dans beaucoup de sociétés à essayer de détecter et d'éviter que les gens trichent et exploitent le système. Alors maintenant, quand vous avez une grande société dans laquelle il y a des systèmes comme l'assurance chômage, vous voyez que ces deux systèmes sont activés. On peut voir la chose comme c'est une assurance, ces malheurs peuvent arriver à tout le monde et ils pourraient m'arriver à moi, donc j'ai intérêt à moi contribuer et à accepter le système. Ou bien il y a un autre système qui dit, mais certaines de ces personnes peut-être sont venues prendre les bénéfices et n'ont pas contribué. On voit par exemple que les systèmes très généreux d'assurance sociale de la Scandinavie sont effectivement l'objet de nombreuses discussions maintenant, alors que ça n'était pas avant, du simple fait de l'immigration. Parce que l'immigration, que ce soit à tort ou à raison, donne à beaucoup de gens qui sont membres de ces sociétés et qui sont là depuis longtemps, l'impression que des nouveaux venus peuvent bénéficier sans vouloir contribuer.
Ou sans avoir contribué
et sans avoir contribué. Alors, ce qui est forcé quand on est un réfugié, bien sûr. Et donc, contre ce système, les gens qui veulent défendre ce genre de système social doivent essayer de persuader les gens que non, ça, tout cela fait partie du partage normal, étant donné l'aléatoire de nos vies, et que vous pourriez être malade demain, bien que vous soyez danois et norvégien, et bien peut-être que les contributions des immigrés de maintenant vont vous aider. Voilà. Donc, nos notions de justice sont prises entre ces deux systèmes. Et c'est très difficile d'avoir des solutions simples et des slogans politiques qui résoudraient la contradiction de ces deux systèmes.
Mais si l'on comprenait parfaitement comment fonctionne la société humaine, est-ce que ça l'améliorerait ? Et j'ai envie de vous poser la même question pour l'économie. L'esprit humain est-il capable de comprendre l'économie mondialisée, qui est très complexe ? Et s'il en était capable, pourrait-il résoudre l'équation et faire que tout le monde soit gagnant ?
Non. Alors, la réponse là est simple, c'est non, puisque les conflits d'intérêts existent et que les conflits d'intérêts ne se règlent que de manière politique, c'est-à-dire en choisissant qui devrait gagner et qui devrait perdre. Mais connaître plus, oui, c'est beaucoup mieux. Et je ne dis pas ça seulement parce que, bien sûr, étant universitaire, je voudrais que la société continue à respecter et à financer les universitaires. Mais c'est aussi parce que quand on entend le discours politique, par exemple, on entend toutes sortes de choses qui bénéficieraient beaucoup d'un peu de sophistication, disons, hein, scientifique. Par exemple, présenter l'économie comme un gâteau qu'il faut diviser et dans lequel, si quelqu'un a une grande part, les autres ont forcément une toute petite part, c'est vraiment quelque chose que, bon, la plupart des économistes diraient, c'est vraiment à la fois trompeur et invraisemblable. Ça ne peut pas être comme ça. Mais ça fait marcher beaucoup de discours politiques. D'autre part, s'apercevoir du fait que les êtres humains, en gros, vivent dans des sociétés compliquées et complexes, ce qui fait que on ne sait pas vraiment l'effet des mesures qu'on prend avant de les avoir prises et avant d'en avoir vu l'effet après quelques années. Une des choses que j'entends beaucoup de politiciens, c'est « personne n'aurait pu prévoir ça ». Et à chaque fois, j'ai l'impression que n'importe quel étudiant d'économie aurait pu prévoir cela.
Vous voulez dire que si on a lu La Fabrique de l'Humanité, on peut prévoir pas mal de choses ?
Oui, c'est un pas, et c'est un pas qui n'est pas très cher.
Si l'on peut dire, il fait quand même plus de 420 pages, presque 500. Ce livre vient de paraître chez Robert Laffont, et le prix, c'est quand même 22,50 euros. Vous m'avez obligé à y regarder.
Oui, mais pour la solution de tous les problèmes sociaux.
Sans aller jusque-là, mais en tout cas, on comprend pas mal de choses. Merci Pascal Boyer, parce que tout ce que vous nous avez raconté ce matin nous a permis, là encore, de comprendre peut-être un peu mieux un certain nombre de choses.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Qui est votre invité ?
Bonjour à vous, cher Frédéric. L'invité du grand rendez-vous, c'est Henri Guénaud, essayiste et ancien conseiller politique. Pour l'interviewer, je serai entouré de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.